Interview.
1 Terre. L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour RDWA sur 107.5 FM et www.rdwa.fr. J'ai le plaisir d'accueillir notre ex-président Luc Boussard, qui est aussi responsable du dojo Zen de Die et qui va proposer le vendredi 27 novembre à l'école Notre-Dame une conférence sur le Zen avec le thème « Le goût du réel » suivi d'une initiation au Zazen. Bonjour Luc.
Bonjour Louis, bonjour chers auditeurs, auditrices.
Tu es un vieux routard de la radio, on va aller droit au fait. Pourquoi tu éprouves le besoin de faire des conférences? Parce que tu as besoin de méditants?
Ben oui, un dojo c'est un espace collectif, c'est un lieu de pratique collective. Et la pratique de Zazen est par essence collective, c'est pas une pratique solitaire. Donc on a besoin d'être un petit nombre minimal pour que le dojo puisse vivre. Et c'est pour ça que depuis que je suis ici, je fais une conférence tous les ans pour que les gens sachent qu'on existe. Que s'ils ne savent pas qu'on existe, ils ne peuvent pas venir pratiquer. Donc c'est juste pour nous faire connaître.
Ce nombre minimal n'est pas atteint ?
On tourne un petit peu en sous-régime. Hein. On est un petit nombre. Il y a de la place pour d'autres personnes. Et puis, en dehors de ces considérations matérielles, moi, je suis un pratiquant fervent et convaincu, et c'est quelque chose que j'ai envie de partager. Je pense que moi, le Zen m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup apporté, et c'est quelque chose que j'ai envie de diffuser et de partager.
Le goût du réel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Zen donnerait une appétence à vivre la vie telle qu'elle est et non pas telle qu'on la rêverait.
On peut dire ça. On peut aussi dire inverser ta proposition, c'est-à-dire que c'est le goût du réel, la soif d'authenticité, de prise directe sur la réalité qui nous mène à la pratique de la voix. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est la démarche qui m'a mené sur un zafu, sur un coussin de méditation. Et c'est aussi celle que la plupart des textes anciens théorisent comme étant le chemin naturel de l'être humain. C'est le sentiment d'aliénation, de rupture avec la réalité qui nous amène à nous poser des questions et qui nous amène à la pratique de la voix.
Mais qu'est-ce qui fait obstacle au fait de goûter la réalité telle qu'elle est ?
C'est l'attachement au petit ego, à l'aspect le plus médiocre, le moins intéressant de l'individu, de l'être humain en fait. C'est l'attachement aux illusions. Le drame de nous autres, les bipèdes, c'est que nous sommes terriblement attachés à nos propres productions, à nos inventions, à nos interprétations de la réalité. Et que nous préférons de loin, je ne sais pas si c'est par paresse, Dogen parle d'une vision erronée des choses. Donc par illusion, nous sommes attachés à nos rêves beaucoup plus qu'à la réalité. La réalité nous fait peur. On a l'impression qu'on y perdrait quelque chose de très précieux. Et le message du Zen, c'est que c'est exactement le contraire. C'est « Oula, camarade, réveillez-vous. Cessez d'entretenir vos rêves. Cessez de vous bercer d'illusions. »
Alors comment ça se manifeste? C'est-à-dire que bon, je vois un tableau vivant en face de moi. Par exemple, je te vois. Et alors là, dans le même temps, je te vois et je crée une série d'idées te concernant.
Oui, c'est un petit peu comme ça que les êtres humains fonctionnent.
C'est-à-dire, Luc, il est chauve, donc ça veut dire que, pof, et je me mets à inventer dans ma tête un certain nombre d'opinions sur les choses.
Oui,
et les gens.
Ou tout simplement pour sortir des choses qui nous concernent tous, parce qu'on fonctionne à peu près tous sur le même modèle. Luc, est-ce qu'il va m'aimer? Est-ce qu'il va avoir toute ma grandeur, mon importance? Le salaud, est-ce qu'il n'est pas en train de me préparer un sale coup? Oh zut alors, il est plus grand que moi, je vais lui casser la gueule. Toutes les inventions, le tissu d'illusions que nous inventons dans nos relations à l'autre. Pratiquer la voix, dans l'école que je suis, l'école de Deshimaru et l'école des patriarches zen, c'est tout simplement à chaque instant être complètement soi-même et de plein pied en prise avec la réalité telle qu'elle est. C'est-à-dire choisir le réel plutôt que l'illusion à chaque instant.
Ce n'est pas une pensée entièrement récente, et c'est marrant parce que je faisais un interview hier et j'ai encore cité cette citation de Marc Aurèle qui disait « Oubliez vos opinions et vous serez sauvés ». Le zen professe cette absence d'opinion ou de pensée parallèle,
oui.
Ça se retrouve dans d'autres écoles de pensée.
Ça m'interpelle beaucoup cette citation de Marc Aurèle parce qu'elle ressemble, et je pourrais te citer des phrases de Maître Zen qui disent presque mot pour mot la même chose. Je pense à une citation de Maître Dogen qui dit « Quand vous aurez compris que vos pensées ne sont pas du tout nécessaires, immanquablement vous trouverez la voie. » Moi, je pense que c'est le fond commun, en dehors du temps, en dehors des époques, en dehors des civilisations, de tous les êtres humains, cette quête de l'authenticité. Je pense qu'on la retrouve dans toutes les démarches spirituelles, sous tous les cieux, dans toutes les races, dans toutes les civilisations. Je pense que c'est vraiment le cheminement profond de l'être humain.
Oui, mais alors, que faire de l'intellect ? Alors, on n'a pas besoin de penser, on ne se sert jamais de cette espèce d'organe qui nous permet de décortiquer, de couper en morceaux, pire, de rationaliser.
C'est pas exactement ça. Si je me réfère à la psychologie bouddhiste, la conscience, les pensées, est rangée parmi les organes des sens, comme les autres, hein, comme la vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher, etc. Donc ce sont des choses qu'on ne peut pas nier, qu'on ne peut pas supprimer, ou alors on se crève les yeux, on se bouche les oreilles et on se coupe le cervelet. On est des êtres humains avec une manière d'aborder la réalité. La nature nous a dotés. Mais ce n'est pas ça en soi-même qui est dangereux, c'est l'attachement indéfectible à cette façon de percevoir la réalité, à cette façon de la juger et de l'interpréter. Ce qui est grave, ce n'est pas la pensée, c'est la fixation sur la pensée, l'attachement aux pensées, la survalorisation, l'identification aux pensées. La réalité bouge tout le temps. Notre cerveau lui-même, notre pensée bouge tout le temps. Le propre de l'homme libre, de l'homme véritable, pour reprendre une citation d'un maître zen, Kodo Sawaki, c'est qu'il est tout le temps en prise avec la réalité. Il ne coagule pas, il ne fixe pas. Il bouge aussi vite que la réalité bouge. Et il est à chaque instant en prise directe avec son environnement. Il ne stagne pas sur des pensées, il ne s'attache pas à ses jugements, à ses opinions personnelles. Je ne sais pas si tu me comprends un peu.
Si. Oui. J'entends bien. Alors, en fait, on pourrait parler d'obsession, en fait. Par exemple, pour reprendre l'image de tout à l'heure, je pourrais spéculer sur ce que tu pourrais penser de moi. Au lieu d'avoir une pensée rapide, je pourrais passer toute la journée en me demandant oh, « Luc, est-ce qu'il s'est aperçu de ma grandeur ?» et passer toute la journée dessus.
Oui, pour prendre ce petit exemple amusant, mais c'est vrai. Et si on s'observe bien, si on s'observe implacablement, si on garde toujours un regard lucide sur soi-même, on s'aperçoit qu'on a tendance à vivre dans ce genre d'interprétation, dans ce genre de décalage par rapport à la réalité, du matin jusqu'au soir et de la naissance jusqu'à la mort. Si bien que si on n'y prend pas garde, on ne vit pas sa vie. On vit une parodie, une caricature de sa vie. On vit un rêve. Et d'après ce que me disait mon maître, on s'en aperçoit juste au moment de mourir, on ne s'en rend pas compte tout au long de l'existence. Donc c'est pour éviter cet écueil qu'on s'engage dans la pratique de la voix.
Alors il y a un facteur qui ne doit pas nous faciliter la tâche, c'est la pression externe d'une société qui s'est énormément accélérée, qui s'est coupée de ses racines naturelles. On parle de quick food, de quick news, tout va très vite. Et ça nous met une pression externe qui fait que nous aussi, on a un flux de pensée très rapide. Et ça doit être d'autant plus dur de lâcher prise de ce flux très intense. Il coule sans arrêt avec un grand débit.
Je pense qu'il y a quelque chose qui est, bien entendu, propre à l'homme, qui est ontologique. Il y a cette tendance à l'aliénation est une caractéristique de l'être humain. Mais je pense aussi, et quand je dis « je ne suis pas le seul hein, », tous les gens qui ont une démarche spirituelle, je pense, disent la même chose, qu'il y a une accélération, qu'il y a, pour reprendre une phrase de René Guénon, la crise du monde moderne, que nous sommes arrivés à des sommets d'aberration et d'aliénation et de dénaturation absolument inégalée dans toute l'histoire de l'humanité. Et que nous allons droit dans une impasse. jamais les puissances matérielles, d'argent, de pouvoir, n'ont exercé délibérément un tel contrôle sur la pensée des gens. Il existe un phénomène d'aliénation au sens fort du terme, c'est-à-dire l'aliénation de l'homme par rapport à lui-même, la séparation de l'homme avec sa vraie nature, qui n'a jamais eu d'équivalent dans l'histoire ancienne. D'une part, c'est d'autant plus difficile de revenir à l'authenticité originelle, mais d'un autre côté, c'est intenable et c'est voué à s'écrouler. Et donc, nous allons inévitablement assister à un phénomène de renaissance, de renouveau de la société humaine. Pour moi, c'est inévitable.
J'en revenais à cette histoire de débit. En fait, c'est une image que je tiens de l'hindouisme Advaita. L'hindouisme Advaita est très proche sur un certain nombre de postulats. Pour eux, on parle d'absence de trouble, l'ataraxie des Grecs, comme une espèce de quelque chose d'immuable qu'ils mettent en opposition avec un flux très rapide d'idées. Comme un cinéma avec un certain nombre d'images, et on est totalement omnibulé par ces images et on finit par les prendre comme réelles. Mmh. Et c'est là que tu parles ou d'auto-hypnose ou d'aliénation. Enfin bref, on est possédé. Comment faire concrètement, parce que toi tu parlais d'impasse globale du système, mais nous, êtres humains possédés par ce débit très rapide d'idées, comment faire pour s'en déprendre, ne pas se laisser hypnotiser? Alors tu vas me dire bien sûr, assieds-toi et pratique zazen, je suppose.
Oui, c'est pas ce que j'avais l'intention de te dire, mais au bout du compte, c'est là que je serais venu. C'est la proposition que je fais, moi je ne dis pas que c'est la solution universelle. C'est la voie que j'ai choisie et c'est celle que j'essaye de partager. Mais il y en a bien d'autres, hein. Je sais très bien que je ne suis pas le seul à faire cette démarche-là. Et qu'il y a d'autres démarches authentiques, parce qu'il faut se méfier, il y a aussi pas mal de fumisterie. Mais il y a bien d'autres démarches authentiques qui sont certainement aussi valables que zazen. Mais sans arriver à entrer dans le détail des différentes voies qui sont proposées, en restant à un niveau général, moi je te dirais que le premier pas pour arriver à se déprendre de ce phénomène de sursaturation et d'auto-hypnose, le premier pas c'est d'en être conscient, c'est de le savoir. Un fou qui ne sait pas qu'il est fou ne pourra jamais guérir. Maître Deshimaru disait « Celui qui sait qu'il est fou, il est déjà à moitié guéri ». Donc la première chose c'est de prendre conscience de ça. La deuxième chose, c'est de l'observer bien, implacablement, bien dans les détails, de bien voir comment on fonctionne et de se déprendre, de se détacher, de ne plus être prisonnier de ces mécanismes psycho-affectifs mentaux. Et c'est là que nous intervenons et que nous proposons une manière très très concrète de se déprendre justement, d'observer et de se déprendre. La solution que nous proposons, c'est cette pratique de la posture de zazen, dans laquelle on est dans le silence et l'immobilité, où l'entité corps-esprit peut devenir comme un miroir qui réfléchit tous les phénomènes intérieurs et extérieurs, c'est-à-dire tout ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur, toutes les perturbations psycho-affectives, tout le fonctionnement du mental et des affects, et puis l'environnement. Et à partir de cette observation neutre, sans jugement, sans interférence, sans opinion, on arrive à créer une juste distance entre soi-même et ses processus mentaux. C'est-à-dire qu'on n'est plus le jouet de ses processus mentaux. On les observe et on les laisse passer. Et c'est ainsi qu'on s'en déprend. C'est le terme que tu utilisais toi-même, la déprise, c'est un mot qui vient de Maître Eckhart et que je trouve très très parlant parce que c'est de ça qu'il s'agit. Déprise ou détachement.
Oui, mais alors quand on est dans plein maelstrom, perdu dans un processus psycho-affectif, une émotion très virulente, hein, parlons de colère par exemple, voire de violence.
Oui.
Quand on en est arrivé là, c'est pas déjà un peu trop tard? Comment peut-on prendre de la distance quand on a envie de frapper quelqu'un? Quelqu'un qui est possédé par la colère ne va pas s'arrêter, donc c'est déjà trop tard. Il faut, hein, c'est long, hein. Je suppose que quelqu'un qui s'assoit en zazen n'a pas des résultats instantanés. Le temps qu'il soit capable de s'apercevoir qu'il est possédé par la colère, c'est déjà trop tard. Il a déjà commis l'irréparable.
Paradoxalement, dès qu'on s'assoit en zazen, dès qu'on fréquente cette posture et cette pratique, on a la totalité, la notion de progrès est tout à fait relative dans cette voie. C'est-à-dire que nous, ce que nous disons, c'est que la pratique de zazen, mais on pourrait prendre ça pour une autre pratique, je suppose que les soufis, par exemple, disent à peu près la même chose, ou les mystiques chrétiens. La pratique de zazen, ce n'est pas quelque chose de spécial, c'est le retour à la condition normale. C'est-à-dire que nous à travers cette posture, à travers cette pratique, nous revenons à ce que nous sommes vraiment, ce que nous avons toujours été de toute éternité. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on obtient petit à petit, c'est quelque chose avec lequel on devient intime parce que c'est notre vraie nature. On renoue avec notre nature profonde. C'est pas quelque chose de spécial. Ce qui est spécial, c'est justement ces états d'aliénation, d'affolement, quand tu parlais de haine, de colère. Et quand on connaît le chemin pour revenir à la condition normale, on apprend à le faire spontanément, en un déclic. L'observation est très importante. Quand tu es dans un état de haine ou de colère et que tu ne t'en rends pas compte, tu ne peux pas faire machine arrière parce que tu es totalement pris par ta haine et par ta colère. Mais quand tu as ce regard sur toi-même, tu dis « Tiens, ah, voilà le Louis qui est encore en train de s'énerver. » Et que tu reviens, il y a quelque chose de très très simple. À ce moment-là, il faut situer son être, son identité, non pas dans son esprit, mais dans son corps. Tu reviens à ton corps. Tu t'apercevras que la colère s'accompagne de phénomènes purement physiologiques. C'est-à-dire que toute l'énergie remonte dans le haut du corps, les épaules montent. Tout le haut du corps se durcit, se rigidifie, et il n'y a plus du tout d'énergie dans le ventre. Quand tu t'aperçois de ça, eh bien tu reviens immédiatement à ce côté physique, tu relâches les épaules, tu laisses ta respiration prendre de l'ampleur. Si tu es en colère, tu vois, ta respiration est bloquée dans le haut des poumons, elle est extrêmement rapide et tendue. Tu te remets à respirer amplement, tu ne t'occupes pas de ton esprit, tu t'occupes de ton corps et de ta respiration. Et immédiatement, cet état de colère disparaît. Ça marche très très bien. C'est la relation du corps-esprit. On soigne l'esprit avec le corps et aussi on soigne le corps avec l'esprit. On demande au corps un certain effort, un certain travail.
Ce qui est étonnant, c'est que tu sembles proposer, et tu as la modestie salutaire de dire que tu n'es pas le seul à proposer des solutions, hein, une technique qui pourrait amener les gens à être eux-mêmes. Et tu me dis aussi que vous êtes un petit peu en sous-régime. Alors comment tu expliques que les gens ne se saisissent pas de cette occasion d'être eux-mêmes de nos jours, alors qu'il y en aurait tant besoin?
Tu connais la parabole du Bouddha, je vais peut-être la citer avec des erreurs parce que ma culture bouddhique est un peu limitée, de la maison en feu où il y a des enfants qui sont en train de jouer.
Non.
Le Bouddha voit une maison avec deux enfants qui sont en train de jouer avec des petits jouets, qui sont totalement pris par le jeu et qui ne se rendent pas compte que la maison est en train de brûler. Bon, la suite de la parabole, c'est qu'il met un grand char tiré par des bœufs devant la maison avec plein de décorations pour attirer les enfants et les faire sortir. La parabole, c'est pour dire que le bouddhisme, c'est un moyen utile, c'est un grand char à bœufs pour attirer les enfants. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est le début de la parabole, parce que tu me demandes comment se fait-il que les gens qu'il n'y ait personne au dojo de dit, que les gens ne se précipitent pas. Mais c'est parce que les gens sont comme des enfants dans une maison en feu. Ils ne voient pas que la maison est en feu, ils voient juste leurs jouets. Ils sont attachés à leur illusion par un lien qu'ils ne veulent surtout pas perdre. Les gens aiment leur misère, j'allais dire leur déchéance, c'est pas très gentil, mais disons leur misère, leur illusion. Et quand je dis les gens, je me compte moi aussi là-dedans, nous sommes tous comme ça, nous sommes tous faits ainsi.
Il y a ces fameux écrits d'une dame, je me rappelle jamais son nom, mais qui a été citée dans le discours d'investiture de Nelson Mandela. C'est un discours très célèbre dans lequel elle disait, enfin Nelson Mandela disait, en la reprenant, que notre vraie peur, nous avions vraiment peur de notre lumière.
Mais exactement.
Et qu'en fait, c'est on a exactement. Peur d'aller bien et que c'est notre orgueil qui fait qu'on s'invente concrètement beaucoup d'ennuis, beaucoup de problèmes afin de justifier qu'on s'agite dans tous les sens pour
voilà,
en sortir.
Tout ce remue-ménage auquel on s'identifie. Les maîtres zen disent qu'on a peur de sauter dans le vide, sans rien à quoi nous raccrocher. En fait, pour reprendre l'expression de Dogen que j'ai citée tout à l'heure, cette vision inversée des choses, puisqu'il parle de vision inversée des choses, nous empêche tout simplement d'être pleinement nous-mêmes et nous fait rater notre vie. Et le but de la pratique de Zazen, c'est d'être pleinement nous-mêmes et de plein pied avec la réalité, sans peur.
Ça me fait penser à la devise de Bayard. Sans peur et sans reproche. Ça n'a rien à voir, ça.
Non, ça. Mais tu citais Mandela, tu citais d'autres personnes. C'est pas quelque chose de spécial et d'unique. Les gens qui sont en recherche, qui ont un certain respect pour la lucidité, qui sont toujours en quête de lucidité, vont dans ce sens-là. C'est pour ça que c'est quelque chose de proprement universel et humain au-delà des civilisations, cette démarche du zen. Je pense que c'est la démarche profonde de l'être humain. cette quête de la réalité. C'est pour ça que j'ai appelé ma conférence « Le goût du réel ».
Pour mettre fréquemment, comme beaucoup, comme tu le rappelais, hein, nous ne sommes pas des êtres à part, mais en tout cas, moi je sais que je suis fou, hein, il n'y a pas de souci.
Mais déjà à moitié guéri, donc.
Ouais, oui. Mais en tout cas, j'ai pu très souvent dans ma vie me faire embarquer par des émotions violentes. Je pense à la tristesse, à la colère. Et je sais, parce que j'ai une espèce de frein ultime qui me fait prendre conscience que ce n'est pas la bonne direction et qu'il faut que je revienne à quelque chose de plus sain. Et je sais que dans ces processus-là, c'est jamais très drôle. Non seulement c'est pas très drôle, mais c'est surtout pas spectaculaire le retour à une certaine réalité. C'est aride, on s'emmerde. Quelque part, quand on est possédé par une émotion violente, intense, c'est plus marrant.
On a vraiment l'impression d'exister.
Voilà, on a l'impression d'exister. Et donc, ce retour au réel, on pourrait même dire très prosaïquement que c'est un peu chiant, quoi. C'est terne. Moi, c'est ce qui me retient des fois. Je me dis, oh là là, voilà, je vais encore me payer un mois ou deux d'aridité pour revenir à une espèce de truc qui tient debout, mais qui est plus chiant.
C'est comme ça. Je pourrais employer une parabole, une image tout à fait classique qu'on utilise souvent pour répondre à cette question. C'est l'image de l'ascension d'une montagne. Le sentiment de plénitude, de joie, d'ivresse qu'on éprouve quand on arrive en haut de la montagne, il se paye par une ascension qui, des fois, est extrêmement pénible. C'est dans l'ordre des choses. Hein. La phase ultime, la plénitude du zen, c'est une entière liberté, une entière création, une joie totale, sans limite, qui est en fait la liberté et la joie du cosmos tout entier. Mais pour arriver à ce sans-effort, à ce degré de consentement total à l'ordre universel, il faut en passer par un effort. C'est comme ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est pas de ma faute.
L'effort de casser les illusions, en particulier.
Rompre ce lien d'attachement à son petit ego, à son ego illusoire. Mais avec un peu de recul, on s'aperçoit que tous ces soubresauts, ces souffrances, ces gémissements, c'est pas bien grave. On relativise tout ça et il y a un basculement qui se fait dans la personne, dans l'être, dans l'identité. Avec la pratique, son être, sa manière d'être, son ressenti bascule de plus en plus vers cette dimension supérieure de l'être humain. Et l'attachement à la dimension inférieure se relativise. On peut le regarder avec ironie et détachement. Ce qui est très important, c'est de ne pas s'identifier avec tous les mouvements de son esprit. L'esprit est extrêmement rusé, il est comme un bébé, il veut occuper tout le devant de la scène. Il veut qu'il n'existe que lui et il utilise tous les arguments, toutes les ruses pour qu'on lui accorde notre attention. Et la pratique de la voix, c'est se défaire de ce lien de soumission, de ce lien de dépendance.
Où on se dit, par exemple, que c'est plus fort que moi et qu'on n'y arrivera pas, par exemple.
Oui.
De défaitisme ou cette impression de ne pas y arriver. Enfin, comme tu dis, c'est très rusé, un esprit, ça va vous dire plein.
C'est pour ça que les chrétiens appelaient le diable le malin. Le malin, c'est l'esprit égotique qui a un arsenal de ruses infini pour arriver à s'imposer, à occuper toute la place. C'est pour ça aussi qu'il est très important de faire confiance à son corps et de revenir au corps, de revenir à la respiration, de revenir au juste tonus du corps. Parce que le corps rétablit l'esprit. Quand on est bien dans son corps, quand on est bien présent dans son corps, l'esprit ne peut plus dérailler. Il ne peut plus exercer cette tyrannie.
Alors pourquoi ne pas pratiquer justement du sport et obtenir les mêmes résultats qu'avec le zen? Quelqu'un qui par exemple fait du jogging tous les matins, non seulement il se dope à la dopamine ou à la noradrénaline, et en plus il est bien dans son corps, il n'a pas besoin de s'embêter à s'asseoir droit comme un piquet pendant une heure à regarder un mur.
Moi j'interdis à personne de faire du jogging, hein, c'est une excellente activité, mais le jogging, autant que je sache, n'est pas une voie, c'est, comme tu dis, c'est un sport. Et il y a une grande différence entre une voie et un sport.
Laquelle est-ce? Si le but est d'être bien dans son corps.
Une voie, c'est une pratique de l'éveil. Maintenant, à moins que tu me contredises, j'ai jamais entendu un jogger m'expliquer que sa course du matin, c'était une pratique de l'éveil. Il y a tout un travail de concentration et d'observation de l'esprit qu'on ne pourrait même pas pratiquer pendant le jogging. Le jogging, moi, je pense que c'est excellent, tu vois. Moi, je fais pas de jogging, mais je fais beaucoup de marche en montagne. Et je me régale quand je vais marcher en montagne. Mais ça ne m'empêche pas de pratiquer zazen. La pratique de cette posture, je te disais, qui est comme un miroir, qui reflète tous les phénomènes intérieurs et extérieurs, sans attachement, sans identification, cette pratique-là est irremplaçable. Tu la remplaceras pas par du jogging ou des poses haltères. C'est...
Et pourtant, quand tu marches dans la montagne, n'as-tu pas le temps de pratiquer l'introspection? Et pourtant, quand le jogging lutte contre la douleur et secrète d'ailleurs des drogues bénéfiques, qui secrète donc une biochimie plutôt agréable, n'a-t-il pas le temps d'observer où est-ce qu'il en est tout en luttant justement contre sa douleur?
Est-ce que tu as fait les deux? Tu as fait zazen et tu as fait du jogging?
Un petit peu les deux.
Et oui. Pour toi, c'est la même chose?
Il y a une lutte dans les deux. Parler de lutte en matière de zazen, c'est un petit peu particulier, mais en tout cas, il y a une partie de moi qui ne veut pas se laisser dominer. Tu parlais de ne pas être soumis. Mm-hmm. Et je pense que, par exemple, c'est pas que je sois paresseux, mais jogging, en fait, ça m'a jamais vraiment plu. Hein. Je suis pas un joggeur de nature, mais je l'ai fait un petit peu. Et je sais qu'il y a des fois où on se dit, allez, j'en ai marre, je m'arrête. Et non, on continue quand même. Mmh. Et là, on voit où est-ce qu'on en est. Puis on a mal un petit peu au genou, on est soufflé. On continue quand même. Et il se passe des trucs quand même qui sont du domaine de la résistance.
Écoute, moi, je ne veux pas du tout critiquer le jogging. Je trouve ça très, très bien, le jogging. Je te dis, moi, je fais de la marche en montagne. Mais je ne suis pas du tout convaincu que ça puisse être présenté comme une voie. Parce qu'il y a, bon, il y a d'abord l'histoire de la posture. La posture de zazen a quelque chose de très, très particulier. Elle est en elle-même porteuse d'un travail que tu ne trouveras pas dans le jogging. Hein, ce travail de pratique, parce que c'est plus qu'une recherche, c'est une pratique du juste tonus, avec toute l'énergie qui se concentre dans le bas du corps, dans le kikai tandem, de manière à totalement libérer le mental. Ça, c'est quelque chose que tu ne trouveras nulle part ailleurs. C'est vraiment quelque chose qui appartient en propre à la posture de zazen. Premièrement, et puis deuxièmement, il y a un autre aspect dont on n'a pas du tout parlé, mais dont on pourrait parler, c'est l'aspect tradition. Zazen est une voie qui remonte à 2600 ans maintenant, où nous marchons sur le pas de nos prédécesseurs, des patriarches anciens. Il y a tout un travail qui s'est fait au cours des siècles, tout un enseignement qui s'est élaboré au cours des siècles et qui se vérifie depuis les origines. L'appartenance à une tradition, à une voie, comme on dit dans la culture sino-japonaise, do, la voie, tao, la voie. L'appartenance à une voie, c'est une garantie irremplaçable. Alors, la voie du jogging, bon, j'en ai pas encore entendu parler, je pense pas que le Bouddha faisait du jogging.
Il faisait beaucoup de marche à pied, hein. Il faisait beaucoup de marche à pied, parce que l'Inde, c'est grand, sa présence est attestée dans au moins 8 lieux saints qui sont séparés par des centaines de kilomètres.
Oui, c'est vrai. D'ailleurs, oui, il a parcouru toute l'Inde à pied pour prêcher son enseignement. Peut-être pas toute l'Inde, mais
l'Inde
une bonne partie.
Nord-Ouest, oui. L'Inde du Nord-Ouest. Il a beaucoup, beaucoup marché. Donc, il sait ce que c'est que l'introspection en action.
Peut-être que quand personne regardait, il se mettait à courir, je ne sais pas. Moi.
En fait, je ne voulais pas te brancher et te comparer le jogging au zen. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour maintenant, cher Luc.
Oui.
En rappelant quand même que ce vendredi 27 novembre à 18h30,
à 18h,
à Notre-Dame, cette conférence sur le goût du réel sera suivie d'une séance d'essai de cette posture qui chasse l'imposture.
Voilà. Donc on montrera la posture et ceux qui le souhaitent pourront la pratiquer un quart d'heure, 20 minutes.
Très bien. Bon, alors tous ceux qui n'ont pas envie d'être possédés par eux-mêmes, réveillez-vous les gars. Il est temps, hein, vous avez vu autour de nous, c'est le bordel. Et c'est pas en changeant le monde que vous allez vous en sortir, c'est plutôt en vous changeant vous-même. Vous avez la chance d'avoir un maître zen qui a eu la chance lui-même de rencontrer Taizen Deshimaru, qui n'était pas le premier des imbéciles. Si je ne m'abuse, tu vas me corriger ou bien ?
C'est un très grand maître, j'ai une reconnaissance infinie à son égard.
Donc, pour en conclure là-dessus, viendez donc le
vendredi 27 à la salle collective de l'école Notre-Dame, derrière la cathédrale, une petite porte bleu clair dans la rue Saint-Vincent, entre le numéro 11 et le numéro 13.
Merci Luc.
Merci à vous, merci à toi Louis, merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Interview. Interview. Okay, the bird. du jour.